C'est une autre sorte de communion que nous écoutons aujourd'hui. Ce n'est pas la petite communauté, c'est une autre communauté. Ce n'est pas la petite communauté des amis, des rencontres des amis qui s'enfermaient dans son propre groupe. C'est la vraie communauté, mais la communauté avec l'Église, avec la chrétienté, avec l'Église dont nous sommes membres, avec la chrétienté auxquelles générations nous appartenons. Nous trouvons dans la liturgie traditionnelle l'occasion de vivre de cette communauté. Et je pense que pour des gens qui veulent servir la civilisation chrétienne, qui veulent servir la Belgique catholique, la France catholique, la Pologne catholique, c'est très important. C'est l'expérience très importante pour moi, tout simplement. Dans la liturgie traditionnelle est également présente la profonde vérité de l'existence chrétienne dans la condition nécessaire à le combat. Romano Amerio a écrit que la forme ordinaire de la messe romaine est très démilitarisée. Parce que militaire, c'est notre condition. C'est notre condition et il ne s'agit pas de combats politiques que nous pouvons interpréter ou non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'engagent pas dans la politique, mais le combat spirituel qui est inévitable avec l'exact moraux qui en font partie, comme dans le cas par exemple de Saint Thomas More, dont je racontais, y compris ceux qui se caractérisent le plus dans l'aspect social et dans la lutte politique, qui peut être reflet de ce combat spirituel dont nous menons inévitablement. Je vais retourner au commencement de la messe. Pendant la prière au pied de l'autel, nous nous confions à Dieu de notre sentiment d'être seul quand nous souffrons la persécution. Au moment de lavabo, par exemple, nous prions avec le prêtre de ne pas succomber au conformisme à l'égard des puissants de ce monde, d'établissements de ce monde, avec leur philanthropie hypocrite qui remplace et imite vraie charité. La liturgie traditionnelle nous apprend non seulement que Dieu voit nos affrontements avec le monde, puisque Dieu voit tout, mais aussi qu'ayant de l'importance que nos souffrances, nos engagements, nos sacrifices ont importance aux yeux de Dieu, qu'ils comptent dans les yeux de Dieu. La politique, de par sa nature, a une dimension communautaire et à la fois individuelle, parce qu'elle est liée à la responsabilité. L'objet de la politique, c'est la société. Mais le sujet de l'engagement politique, c'est la personne. Donc, s'il s'agit de nos vies nationales, nous sommes tous engagés comme la personne, soit des chefs, soit dirigeants, soit simples électeurs qui réfléchissent la responsabilité de sa vote. Nous sommes tous engagés personnellement. Mais aujourd'hui, la défense de la civilisation chrétienne, même dans cette dimension communautaire, exige la décision consciente et non conformiste de se situer contre la majorité. Dans cette lutte contre la majorité, la liturgie traditionnelle nous donne cette forte assurance que dans ce monde chaotique, nous avons des points de soutien, comme l'a dit Bienheureux cardinal Henri Newman. Ma conscience et mon Seigneur. Des choses qui sont sûres. Ma conscience et mon Seigneur. Bon, donc à la fin, je vais, parce que peut-être c'était. Je parlais de beaucoup de choses, donc je vais récapituler. La thèse de cette réflexion. Premièrement, le magistère traditionnel de l'Église enseigne le principe de l'ordre social sur lequel repose le bien commun de chaque nation. Deuxièmement, Le magister traditionnel crée un contexte incontournable et fournit un code d'interprétation des interventions sociales faites par le pape de l'époque actuelle. C'est justement en cela que consiste l'herméneutique de la réforme et de la continuité. Troisièmement, dans la liturgie traditionnelle, on voit se manifester l'esprit de service qui, par lui-même, encourage la personne de s'engager dans le service conformément à leur devoir d'État. Et quatrièmement, à travers la liturgie traditionnelle, s'exprime la vérité sur l'inévitable non-conformisme de la vie chrétienne selon l'avertissement de l'apôtre des nations. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est le troisième chapitre de la deuxième lettre à Timothée. Ainsi, la liturgie nous prépare à la lutte et explique l'essence de nos sacrifices. Et c'est tout que je voulais parler. Je vous remercie encore une fois de votre présence, de votre patience et de votre attention. Merci beaucoup.
Après avoir parlé tant en français, il faut peut-être voir un peu.
Merci, monsieur le député, pour justement une expression française qui n'est pas toujours très facile et qu'on a bien comprise, quand même, je crois, tout le monde a bien compris. Il va sûrement y avoir des questions qui vont suivre. Je crois que vous êtes très intéressé par les questions que peut-être vous vous êtes posées. Vous êtes resté sur les principes, avec quelques applications pratiques. Et je vous remercie beaucoup de cette considération qui touche des papes, qui touche la liturgie, qui touche aussi la réalité de la politique concrète. C'est peut-être sur ce sujet qu'on va vous interroger davantage. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas présumer. Mais donc, le moment est maintenant est celui des questions. Donc, qui veut poser la première question ?
Je voulais vous demander, M. le député, à propos de la famille, en ce qui concerne le divorce, si même. Disons, il ne semble pas possible, réaliste, de rejeter purement et simplement et de dire, voilà, c'est le mariage est indissoluble, bon, ça vaudrait mieux. Enfin, mais si on se dit, en hypothèse, on dit, que ça, c'est une étape qui n'est pas encore possible, est-ce qu'on ne pourrait pas du moins avoir un peu ce qui se faisait au Portugal sous Salazar, c'est-à-dire qu'on a fait le choix d'après la loi civile, et le concordat d'ailleurs, soit d'aller se marier à l'église, et c'était reconnu par l'État, et à ce moment-là c'était indissoluble, ou moins probable si on peut dire, enfin c'est bon alors de se marier devant l'État civil, et le mariage était dissoluble, mais disons la possibilité au moins de contracter un mariage qui légalement serait indissoluble.
Merci de cette question. Je pense que c'est cas portugais, cette solution portugaise, je vais dire comme historien catholique, était très juste, parce que s'il s'agit d'unité de mariage, l'enseignement de notre Seigneur était étonnant, même pour ses disciples, pour des juifs. Donc, bien sûr, dans le sens profond, le mariage est indissoluble. L'Évangile a éclairé cette vérité. Et pour nous, catholiques, chaque parmi nous qui se marie, moi je suis heureusement marié, c'est mon bonheur, vivre dans le mariage, mais chaque parmi nous, très consciemment et ouvertement, déclaré qu'il renonce de toute séparation définitive avec son épouse. C'est l'engagement de deux personnes libres et conscientes. Et cette solution juridique que l'État respecte, cet libre, conscient engagement de deux personnes confirmées et sacrifiées par l'Église est très juste. Je pense que c'était la même manière, c'est la même solution a existé jusqu'à nos jours en Irlande. Parce que ce n'était pas, comme on dit, interdiction de divorce. C'était respect du caractère définitif du mariage catholique. De caractère, c'était non-intervention de l'État qui respecte aussi le caractère sacré du mariage catholique. Et c'était très juste. Je vais rappeler comme historien que même pendant le premier référendum sur le divorce en Irlande, Jean-Paul II, peut-être c'était à la manière pas directe, mais il a déclaré ouvertement pendant le pèlerinage en Irlande que seule institution de divorce affaiblit le mariage, que c'est comme la drogue qui propose utiliser, qui proclame le caractère non définitif du mariage, qui affaiblit le lien conjugal. Donc, je pense qu'en Irlande, par exemple, c'est la fierté d'Irlande qui l'ont rejeté, l'institution, l'intervention de l'État dans le mariage catholique dans les années 80, et même au début du XXe siècle, quand ils ont malheureusement ont accepté la loi sur le divorce, 48 des Irlandais ont voté pour non-intervention de l'État dans le mariage catholique, pour le respect du caractère indissoluble et sacré du mariage et de la famille catholique. Et je pense que je voulais rappeler ce serment de Koch, que je pense, de Jean-Paul II, qui a défendu Irlande contre mais bien sûr, je pense en tant que l'homme politique que pour la majorité de nos pays et pour notre génération, malheureusement, c'est la question théorique. Mais il ne peut pas imposer de déclarer que la situation quand l'État intervient dans une institution complètement autonome et sacrée, que le mariage catholique n'est pas juste. Je pense que nous avons d'autant plus grand devoir de proclamer le caractère sacré et indissoluble du mariage quand ce caractère est contesté dans la société. Donc certainement, même s'il n'est pas l'objet de débats politiques, il faut répéter que le mariage indissoluble et que la fidélité matrimoniale, le caractère définitif du mariage, ce sont des choses très importantes pour toute la société, que le mariage catholique apporte très importante valeur à la vie de la société, par son exemple, par le caractère vraiment, on peut dire, communautaire, par la communauté définitive pour ses enfants, pour la famille, etc. Parce que certainement, le divorce, c'est grand mal pour des enfants et pour la cohésion de nos peuples, cohésion de nos sociétés. Mais ce n'est pas le problème politique, malheureusement, dans notre époque, dans notre génération, pour la majorité de nos peuples, mais c'est l'objet de notre foi, c'est l'objet de notre morale et c'est notre devoir de témoigner ce caractère chaque fois.
Vous avez parlé de la nécessité pour des catholiques de se positionner contre la majorité, d'être non-conformiste, pour être fidèle à notre foi. Et en même temps, vous êtes engagé dans un système qui est gouverné par le vote majoritaire. Comment est-ce que vous arrivez à associer cela dans le sens de votre travail? Comment vous pouvez donner une force d'influence, entre guillemets, à votre travail dans ce système de vote majoritaire?
Il n'y a aucune contradiction. Je n'avais pas... Je ne sais pas. Malheureusement, je n'ai pas pris mon portable, donc je ne sais pas combien de minutes je parlais. Mais je pense que longtemps.
Pas très longtemps, 55 minutes.
Ça fait. Mais c'est pourquoi 55 minutes. C'est pourquoi je n'ai pas pu expliquer ce problème. Mais il n'y a pas aucune contradiction parce que le gouvernement, les éléments de la démocratie, c'est l'élément nécessaire de toute la civilisation occidentale.